Jusqu'au 31 mai avec Audi Now, repartez sans attendre au volant de l'Audi dont vous avez toujours rêvé. Profitez notamment de l'Audi A1 Sportback à partir de 290€ par mois avec apport. Rendez-vous chez votre partenaire Audi.
Offre location longue durée valable du 21 au 31 mai 2024 pour une Audi A1 Sportback 25 TFSI Advanced. Premier loyer de 3 000€ suivi de 36 loyers de 290€ réservé aux particuliers sur 30 000 km dans le réseau participant sur une sélection de modèles disponibles en stock. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur Audi.fr. Now signifie maintenant.
Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
Vous êtes au cœur de l'émission qui s'occupe de vos finances personnelles en direct tous les jours de 10h à midi sur BFM Business, à la radio, à la télé, mais aussi sur le web, sur nos players live. Nous sommes également en podcast et on salue tous ceux qui nous écoutent depuis l'étranger. Le programme de l'heure à venir, c'est l'immobilier comme tous les vendredis. Une demi-heure avec nos experts et nos expertes. Olivier Marin du Figaro Propriété, Audrey Zermati, Défi et puis bien sûr Marie Cœur de Roi. On parlera de l'effet des travaux sur les habitations. Est-ce que ça peut vraiment suffire de faire des travaux? Est-ce qu'il faut au contraire aller regarder le neuf quand on veut respecter toutes les normes et qu'on veut avoir un appartement ou une maison qu'on peut garder sur le long terme ou qu'on peut pouvoir louer? De plus en plus d'usages électriques aussi dans nos maisons. On en parlera avec la bande des experts de l'IMO d'ici une dizaine de minutes. Aujourd'hui, c'est vendredi, on investit dans les cryptos, en tout cas on analyse cette classe d'actifs si vous pensez que c'en est une, avec Amaury de Tonquédec qui répondra également à notre auditeur Alexandre qui nous demande comment les ETF pourraient influencer le marché du Bitcoin, comment ça fonctionne, est-ce que c'est quand il y a le plus d'achats de Bitcoin qu'il perd de la valeur, c'est sa question, on lui répondra tout à l'heure. Comme Alexandre, si vous voulez participer à l'antenne, l'adresse est direct@bfmbusiness.fr ou sur LinkedIn, vous m'écrivez pendant le direct, je vous lis dans ma messagerie privée. Nous partons à Euronext rejoindre Antoine Larry-Gaudry.
Votre rendez-vous avec AG2R La Mondiale. Épargne, retraite, santé, prévoyance. Avec AG2R La Mondiale, prendre la main sur demain.
Cher Antoine, on vous retrouve toujours dans le rouge. Notre CAC 40, correction marquée pour notre CAC 40. Mais pour le moment, on ne fait pas pire que Wall Street. Wall Street, hier, qui a terminé officiellement sa pire séance de l'année.
Oui, on reste sur des supports intéressants du côté des 8040 points là autour, 8036 très exactement en ce moment, sur un repli d'1,4%. En gros, on est sur le plus bas de la séance là quasiment. Enfin, ça reste quand même pas bien méchant. On a un CAC 40 qui aurait pu vraiment libérer du potentiel vendeur et directement se diriger vers les 8000, voire en dessous. Pour l'instant, ça tient le coup. Le DAX à Francfort, moins 1,5 du côté de l'Eurostock 50. À noter l'indicateur de volatilité, le VIX américain, qui grimpe très nettement. On est à 16,5 points, preuve que le marché est stressé. Et on l'a dit, divergence de stratégie au sein de la Fed en matière de baisse de taux. On a également la prime de risque géopolitique qui fait s'envoler les cours du brut au-delà des $90. On était même au-delà des 91 ce matin pour le Brent. 90-80 à l'instant. L'once d'or fin qui reste très ferme au-delà des $2300. Techniquement, il y a un facteur intéressant, c'est qu'il y a un seul titre en hausse sur le CAC 40 pour le moment. C'est Carrefour qui gagne 0,6% à 15,60€. Une valeur très défensive. Tout le reste est en baisse. Bouygues, -2,6 à 36,69. Saint-Gobain, -2,4 à 72,46. Et Essilor-Lussotica, -2%, 201,40€. L'ordre des titres, d'ailleurs, ne bouge pas beaucoup. À signaler que les principales hausses sur le SBF 120 sont signées par des titres vraiment liés au pétrole, hein, avec Morel et Prom qui gagne 2,4% à 5,93. GTT, +1,16% à 139,30€. Et puis, les dossiers un peu en déshérence, on en parlait tout à l'heure. Atos, qui gagne 0,6% à 2,02€ sur un marché qui perd 1,4%. Le CAC 40 -1,44, on est à 8034 points et l'euro 1,0838. Lorraine.
Antoine, c'est l'heure de votre histoire.
Tout pour investir, l'histoire d'Antoine.
Bon, depuis ce matin, on le voit, beaucoup de volatilité sur les marchés et peut-être du gros temps à prévoir pour les cryptos, vous nous dites.
Oui, et notamment sur le Bitcoin. Hein. On va avoir du boulot pour Amaury, hein, qui va regarder ça de près, sans doute. Alors, on ne parle pas là du marché des Bitcoins en tant que tel. On ne parle même pas des ETF hein, qui ont fait l'actualité ces dernières semaines. On parle des options, c'est-à-dire les positions qu'on prend en amont sur les marchés. Alors, tout ça se passe à la bourse de Chicago, le CME, le Chicago Mercantile Exchange. On est là-bas sur un record absolu, hein, de positions de vente à découvert sur les contrats Bitcoin. Selon les derniers relevés, à la fin du premier trimestre, on était un petit peu au-dessus des 16 000 positions. On est à 16 102, très exactement, positions prises à découvert sur les contrats standards CME Bitcoin. Chacun contient 5 Bitcoin. Hein. Donc, c'est du jamais vu. Une situation qui tente à prouver que ce sont les hedge funds, les fonds d'arbitrage, qui sont positionnés avec effet de levier, qui sont en action. Et qu'on redoute, en fait, ce serait le reflet du fait qu'on redoute sur les marchés un décrochage massif des prix du Bitcoin. Une des raisons invoquées pourrait être que la Fed, on l'a vu, semble divisée sur la marche à suivre en matière de baisse de taux, ce qui donnerait en fait dans le temps un avantage de rémunération au dollar pendant un petit temps un peu supérieur à ce qu'on attendait au départ. Et ça rendrait rentable des véritables mouvements de carry trade, comme on dit avec les devises classiques, autour cette fois d'actifs un petit peu décorrélés, dont le Bitcoin fait partie, et avec un rendement de alors plus de 10%. Les positions vendeuses à 3 mois sur le Bitcoin, au vu des mouvements de cours, sont beaucoup plus rentables comparées, par exemple, aux 4,3% affichés par le taux à 10 ans américain. Et si l'obligataire reste tendu, hein, qu'il a du mal à corriger comme on le voit en ce moment, comme en ce moment avec des indicateurs économiques plus dynamiques que prévu, les gros fonds spéculatifs jouent avec effet de levier, sont très bien placés pour jouer et amplifier alors le moindre décrochage sur le Bitcoin. Donc sans doute une source de pression supplémentaire sur les cours de la reine des cryptos qui a, c'est vrai, en plus du mal à retrouver un second souffle hein, depuis son dernier record à 73 800, c'était à la mi-mars.
Voilà, du gros temps à prévoir, à anticiper du marché des cryptos, c'est ce que vous nous dites en analysant le record de positions futures vendeuses. Les cryptos, nous en parlerons en fin d'émission avec Amaury de Tonquédec, ce sera dans 40 minutes à peu près. Je vous précise que la chronique d'Antoine ainsi que l'ensemble de ses histoires financières sont à retrouver sur notre site web et notre application dans les secondes qui suivent leur diffusion en direct à la radio, à la télé. Cher Antoine, bon week-end, on vous retrouve lundi. Après, on espère une après-midi pas trop mouvementée du côté des États-Unis. Vendredi, de l'emploi, vous le savez. Vous restez avec nous, nous allons maintenant parler d'immobilier. Nos experts et nos expertes sont en plateau et ils se préparent pour venir répondre à vos questions et apporter leur éclairage sur le secteur de l'immobilier. Nous allons notamment parler de la transition énergétique dans le secteur. Pas mal de questions, beaucoup de sujets à aborder. À tout de suite.
Tout pour investir, les experts de l'IMO.
Les experts de l'IMO, comme tous les vendredis, Marie Cœur de Roy est parmi nous. Bonjour Marie.
Bonjour Lorraine, bonjour à tous.
Nous sommes entourés ce matin d'Audrey Zermati. Bonjour Audrey.
Bonjour.
Vous êtes directrice stratégie Défi. Vous allez porter votre regard sur l'immobilier et la transition énergétique. Nous va être l'objet de notre séquence. Et nous sommes également avec Olivier Marin. Bonjour cher Olivier.
Bonjour.
De l'équipe du Figaro. Le Figaro, propriété, rédacteur en chef. Pas mal de questions à répondre. On va commencer par un petit point conjoncture, comme on dit.
Comme adore Olivier, à chaque fois qu'il vient, il a envie de nous faire un petit point conjoncture. Il y a des choses à dire, parce que ça y est, on est début avril, le premier trimestre est passé, donc on a plein de choses à raconter du côté des prix, du volume de vente, des volumes de vente, des crédits immobiliers, conditions d'emprunt, tout ça, quoi.
Oui, on a eu pas mal d'indicateurs. Alors en fait, sur l'activité, ça va mieux, mais la reprise, elle se fait attendre. En fait, c'est ce qu'on a, c'est les retours qu'on a. Il y a plus de visites immobilières, il y a plus d'intérêt, mais pas encore, en tout cas dans les chiffres, on ne voit pas les signatures de compromis de vente et tout ça, ça coince un peu, ça frémit, mais en fait, il n'y a pas d'ébullition. La bonne nouvelle, c'est évidemment les taux d'intérêt qui se stabilisent. On est autour de 4%, voire légèrement en dessous. En dehors des ventes contraintes, donc déménagement, divorce, séparation, décès, bah ça bloque un peu, ça se bouscule pas. Certains font le choix d'attendre, se disent que les taux vont continuer à baisser, donc c'est pas le moment de se précipiter. Mmh. Se disent aussi que les prix ne baissent pas autant qu'ils le souhaitent. Et donc, on a effectivement, Marie, quelques indicateurs cette semaine. On a les baromètres des réseaux Guy Hoquet, de La Forêt, des acteurs du crédit comme CAFPI, Empruntis et Vous Financez, qui traduisent en fait cet état de fait. Alors, côté transaction, le baromètre Guy Hoquet pour le premier trimestre, alors il parle de bonnes ondes, il parle de signes encourageants.
Oui, c'est marrant, c'est un peu la méthode Coué, hein, je vais bien.
Oui, mais bon, alors il y a plus d'offres, et Guy Hocquet est quand même vigilant, puisqu'il évoque dans son observatoire des prix qui repartent légèrement à la hausse.
C'est dingue, hein, ça.
Plus 2,2% en moyenne au niveau national. Ça concerne à la fois les maisons et les appartements. Mmh. Et la forêt parle aussi de frémissements prometteurs.
Non mais c'est comme quoi tout est une question de vocabulaire.
Titres, hein,
c'est le printemps de l'immobilier en fait, à vous entendre.
Mais encore, il dit, marqué par des tensions. Mmh. Et lui enregistre alors la forêt plutôt des prix à la baisse, moins 1,2% au niveau national. Mmh. Donc ce qui fait qu'entre moins 2, 1,2, en fait ça ne bouge pas vraiment au niveau des prix. Des délais de vente qui augmentent, on est autour de 96 jours, plus de 3 mois entre le moment où, voilà, où vous espérez, en tout cas, entre quand vous mettez en vente et espérez vendre. Marge de négociation, on est à 5,5. On est en fait entre l'espoir d'une reprise et puis les freins de la réalité économique. Beaucoup de prudence dans un environnement économique qui est complètement incertain. Pas de visibilité, de l'attentisme qui perdure, et puis on peut obtenir quand même des belles décotes en ce moment. Du côté des taux, c'est ce qu'on a. Les taux les plus bas négociés atteignent 3,5% sur 15 ans, 3,6% sur 20 ans et 3,9% sur 25 ans, ce qui indique vous financez en fait les différents accords de crédit.
Kefi nous disait 3,44% pour les meilleurs profils d'emprunteurs sur 20 ans. C'est quand même, quand on pense qu'il y en a certains, je m'amusais à faire les comptes, mais souvenez-vous, en fin d'année dernière, on se disait, oh mon Dieu, ils ont eu 4,9. Il y en a qui ont décroché des crédits à 4,9 en décembre dernier, hein, parce qu'ils voulaient tellement ce bien immobilier-là, et les banques ne voulaient tellement pas prêter, que certains étaient prêts à accepter même le pire taux d'intérêt quand même.
Oui, alors en tout cas, voilà, il y a des bons signes du côté des banques, en tout cas qui prêtent de nouveau, on voit l'apport personnel qui baisse un petit peu. On voit que les investisseurs reviennent, les banques sont moins dures, on va dire, en ce moment. Ça redevient véritablement le crédit immobilier un produit d'appel. Et puis, il y a quelque chose parallèlement, mais je pense qu'Audrey va réagir à ça, que l'on voit, nous, alors sur les sites internet du groupe Figaro, typiquement Figaro Immobilier et les autres, c'est en fait l'intérêt sur le DPE. Pendant longtemps, c'était extrêmement regardé. Donc, on pouvait sélectionner par prix, par surface, par, bien sûr, situation géographique, et puis par... étiquette énergétique. Et on voit, alors est-ce que c'est une tendance, est-ce que c'est pérenne ou pas ? Ben, il y a, on va pas dire un désintérêt, mais il y a moins d'intérêt sur les performances énergétiques, ce que l'on voit en tout cas sur nos sites.
Ouais, mais justement, c'est une bonne question, Audrey. Forcément, je vais me retourner vers vous, parce que qu'est-ce qu'on a dit ces dernières années avec la nouvelle réglementation ? C'est que ça y est, les performances énergétiques, le DPE, allaient devenir finalement une clé de lecture de la valeur immobilière. Et là, on a l'impression qu'on est dans une espèce de flou artistique. Et j'ai envie de dire, vous allez être notre baromètre aujourd'hui. Est-ce que véritablement ça compte ? Et du coup, la corollaire, c'est est-ce que si ça compte vraiment, vous avez, vous, constaté qu'il y avait une espèce d'appétit pour les travaux qui étaient renforcés, ou au contraire, pas du tout ?
Alors, oui, évidemment, ça compte. Hein. Vous savez que maintenant, le diagnostic de performance énergétique, il est opposable quand il y a une transaction. Donc, depuis 2021, on peut remettre en cause une vente si le diagnostic de performance énergétique n'est pas celui qui avait été prétendu par le vendeur.
Je vous arrête parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire si j'achète un bien immo, que je refais le DPE et que ce n'est pas le même que ce qu'on m'a vendu ?
Ça veut dire qu'on peut contester la vente devant les tribunaux. Alors, évidemment, ça suppose des contentieux. Mais en tout cas, ça veut dire que le DPE compte. Avant, il n'était qu'indicatif. Par rapport à tous les autres diagnostics.
C'est plus une clé de lecture, comme disait Marie, c'est un vrai élément du patrimoine.
Exactement,
immobilier de la valeur.
Ça peut être un élément de décision et même de remise en cause de la vente. Après, c'est vrai que ce qu'on a vu depuis ces derniers mois, c'est ce flou que vous évoquiez aussi sur le diagnostic de performance énergétique pour dire, ah ben, finalement, il n'est pas tout à fait fiable, la méthodologie, on va la revoir, et puis on va peut-être finalement autoriser certaines passoires énergétiques quand elles sont à en dessous de 40 mètres carrés, finalement, à pouvoir quand même être louées. Donc en fait, il y a eu énormément de communication contraire qui font, et c'est normal, que les gens se posent des questions sur la véritable intérêt de connaître son étiquette énergétique et finalement de s'intéresser à ce sujet-là. La réalité sur la demande de travaux, là aussi, elle est assez, au premier trimestre, finalement, assez baissière, puisque j'avais évoqué, quand j'étais venue la dernière fois sur ce plateau, on a une baisse des demandes depuis le début de l'année pour les gestes simples. Donc, on va en parler tout à l'heure avec les évolutions d'aide MaPrimeRénov' de 40%. 5% depuis le début de l'année.
Waouh.
On voit un frémissement là parce qu'il y a eu des annonces il y a quelques semaines sur ces aides. Donc on voit un frémissement mais pas encore de reprise complète. Donc là aussi, je dirais que je serais un peu sur les mêmes terminologies, ça commence à reprendre mais on n'est pas quand même au niveau au quoi on s'attendait. Vous savez, c'est l'hiver, les gens font les travaux en général l'hiver. Donc c'est vrai qu'on s'attendait à ce que il y ait une reprise là au moins mi-mars. Et pour l'instant, elle se fait encore attendre.
Mais ça, Olivier, au Figaro, vous avez regardé justement, tu en parlais il y a quelques minutes, au niveau des acheteurs, des vendeurs, est-ce que c'est cette conscience écologique, tu as l'impression aussi qu'elle est presque en corrélaire de ce dont témoigne Audrey, c'est-à-dire qu'on a à la fois une baisse de demande de travaux sur le premier trimestre et peut-être finalement un début de redésintérêt finalement de cette valeur verte. Comment on explique ?
On l'espère pas, parce que de toute façon, c'est le sens de l'histoire, il faut y aller, c'est important aussi, évidemment, on parle de santé public aussi, mais juste on a fait, si tu fais allusion au sondage auprès justement des propriétaires, en fait, justement pour savoir pourquoi, déjà, dans un premier temps, ils engageaient des travaux. En premier, c'est pour les économies d'énergie. En deuxième, c'est le confort. Et en troisième, c'est pour pouvoir louer. En fait, la petite musique qui a circulé, attention, passoire énergétique, vous ne pourrez pas
les louer,
mettre en location. Et tout ça, ça arrive en numéro 3 devant pour mieux vendre mon logement. Ça arrive avant l'aspect de la vente. 75% ont obtenu des aides qui compensent environ la moitié des frais engagés. Montant moyen engagé, on est entre 10 000 et 20 000 euros. Près de 80% sont passés par des professionnels du bâtiment, des artisans certifiés. Financement, c'est plutôt l'épargne cumulée avec des aides de l'État. Aide numéro 1, c'est MaPrimeRénov', bien sûr. Et puis, pour ceux qui vont se lancer dans les travaux cette année, ils espèrent donc avoir des aides. Et on a posé la question, est-ce que vous avez entendu parler des dernières mesures annoncées par le gouvernement ces derniers temps, justement, par rapport à la rénovation énergétique ? 74%, la réponse, elle est non. Et sur les aides locales, la réponse est non à 80%. Une grande majorité aimerait connaître en quelques minutes une estimation d'étiquette du DPE. Beaucoup trouvent que c'est trop long, qu'il y a encore trop de différences selon les certificateurs. Pas assez d'informations, pas assez de transparence. C'est ce qui revient dans l'enquête et il y a un fort besoin à la fois de conseils et d'accompagnement.
Et de transparence, hein, Olivier, ouais. c'est un peu ça, Audrey.
Olivier, pardon, juste sur cette histoire de pourvoir louer qui devient le numéro 3 des points importants. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on a un bien immobilier, la possibilité de louer est rentrée dans les usages, même si avant on n'y pensait pas. Aujourd'hui, ça devient un critère,
oui.
Cette option actionnable, ouais. Si je puis dire.
Alors, le sondage, effectivement, l'enquête a été faite en janvier. On rappelle que il y avait interdiction, en tout cas, de louer pour les passoires thermiques, en tout cas les biens classés G, à partir du 1er janvier prochain. En fait, ça a été retardé, mais cette petite musique, effectivement, elle est arrivée dans la tête de faire attention. Il y a le côté, faut pas se faire avoir. Donc, on va engager les travaux parce qu'on ne pourra plus louer après.
Mais ça veut dire donc que cette notion de transition énergétique et des actions qu'on doit faire, elle est bien intégrée.
Elle est intégrée, mais comme
elle est obligée, repoussé, elle est obligée par la réglementation.
Comme c'était repoussé.
Mais on pourrait cette obligation. Aussi,
Il pourrait y avoir aussi petit à petit, le risque c'est qu'il y ait un désintérêt, et on le voit dans nos entreprises, vous le voyez aussi, enfin, on a l'impression qu'en 2 ans, il y a un climato-scepticisme, en fait, petit à petit qui est arrivé. Il y a eu vraiment cette prise de conscience très importante partout, on le voyait, attention, l'ascenseur, faut pas le prendre, faut économiser, telle et telle chose. Je ne vais pas dire qu'il y a un relâchement. Mais le milliard en moins de l'État sur la transition écologique, certaines choses...
C'est une petite musique, ouais.
Attention qu'on ne bascule pas dans l'autre sens. Et sur l'accompagnement, alors on connaissait le Tour de France cycliste, à vélo, il va y avoir le Tour de France France Rénov. À partir dans 2 semaines, 2 tiny house qui vont comme ça...
Tu dis tiny, toi.
Oui, tiny, c'est
je
mignon.
Je dis tiny, moi.
Tiny house. Vont parcourir en fait les villes de France pour expliquer aux habitants, donc dans chaque ville étape, qu'est-ce que c'est que la rénovation énergétique, les expositions, combien ça peut coûter, des aides locales. Le gouvernement se dit, il faut qu'on mène ce Tour de France. Ça, c'est l'agence nationale pour
faire de l'évangélisation, en fait. Mais justement, Audrey, j'en profite, je voulais pas, mais on va le faire maintenant. Mm-hmm. Cette question d'auditeur de Jean-Louis, qui justement, c'est pour ça que je parlais de petite musique, qui dit que lui aussi, il entend cette petite musique sur le fait que les travaux, finalement, ils seraient pas aussi efficaces. Il demande carrément s'il y a un vrai impact sur nos factures, sur la planète. Et il se demande si c'est vrai, si dans ce cas-là, s'il y en a pas, est-ce qu'il a pas plus intérêt, Jean-Louis, à vendre sa passoire. Est-ce qu'on peut mesurer véritablement l'efficacité de tout ça ?
Alors, c'est vrai que sur ce sujet de la rénovation énergétique, des économies d'énergie, c'est un enjeu très important. C'est le premier facteur de passage à l'acte, c'est de faire des économies sur sa facture d'énergie. Et donc, c'est vrai que les gens ont besoin d'être rassurés pour se dire, j'investis des sommes qui peuvent être parfois importantes dans des travaux. Est-ce que je vais avoir derrière la rentabilité, quelque part, avec ma facture d'énergie ? Il faut déjà avoir en tête qu'on a des prix de l'énergie qui ont fortement augmenté. Pour l'électricité, on y reviendra, mais on a eu 45% dans l'année qui vient de s'écouler, d'augmentation. Donc, c'est vrai qu'il y a besoin d'avoir cette réassurance. Et c'est vrai que nous, les EFI, on a mis en place un programme qui s'appelle Économie, avec deux E à la fin, qui permet d'évaluer la réalité avant, après travaux, des économies.
Ça veut dire quoi ? Je vais voir ma facture avant de faire les travaux, on est d'accord ou après ?
Alors, en fait, on va se connecter à votre compteur communicant, donc Linky pour l'électricité ou Gaspar pour le gaz, selon votre énergie de chauffage, et on va vérifier, on va pouvoir remonter 3 ans avant les travaux, et donc pouvoir voir finalement avant et après les travaux l'impact de ces travaux sur votre consommation d'énergie qui sera répercutée à travers votre compteur
et donc dans votre facture. Mais là, vous venez de lancer le produit, donc j'ai envie de dire, est-ce que vous avez assez de recul pour dire à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, oui, globalement, vous allez faire des économies ou attendons de voir ?
La réalité, et nous, on le constate avec des enquêtes auprès de nos clients, il y a effectivement des économies d'énergie qui peuvent être très conséquentes, mais c'est sûr que vous savez très bien que quand vous faites des travaux, il peut y avoir parfois des comportements post-travaux où les gens vont remonter un peu leur chauffage, donc ce qu'on appelle l'effet
rebond. D'accord, donc je voulais l'aborder en deuxième partie, mais effectivement, c'est sujet. C'est-à-dire que je rebondis sur ce que vous dites, Audrey. En gros, aujourd'hui, je peux tout faire, tous les changements qu'on m'a préconisé, tous les travaux qui vont me coûter des dizaines de milliers d'euros. Si derrière, je relâche la pression et j'ai un mauvais usage, je vais peu gagner. C'est ça votre discours aujourd'hui.
En fait, ce qu'il faut absolument, c'est quand vous faites des travaux, que vous puissiez derrière, et c'est généralement, vous repeignez un mur, vous avez tendance à vouloir le décorer de manière beaucoup plus vous avez cette envie de le décorer de nouveau parce qu'il est il est repeint. Et ben c'est un peu la même chose. Vous faites des travaux de rénovation énergétique, du coup, vous avez quelque part un déclic pour vous dire c'est le moment de faire des économies d'énergie. Donc, dans votre comportement également, vous pouvez avoir un usage plus sobre. Vous allez piloter votre chauffage, donc éventuellement mettre des thermostats pour pouvoir finalement réduire votre consommation d'énergie quand vous n'êtes pas chez vous. Donc, vous allez faire des travaux et derrière, dans votre comportement, avoir un agissement plus sobre. C'est vrai que les travaux, c'est déjà un premier pas. Et vous allez faire des économies. Hein. Nous, je vous donne un exemple. Hein, quand on fait un remplacement d'une chaudière fuel par une pompe à chaleur, on peut avoir jusqu'à 50-60% d'économies sur sa facture d'énergie. Donc, c'est des gains qui sont considérables. Exactement. Ça peut compenser. Ça peut aller même plus loin que simplement compenser la hausse. Et du coup, derrière, vous pouvez aussi avoir des usages. Donc, évidemment, piloter votre chauffage, éteindre vos appareils en veille. Enfin, tous les comportements qui peuvent finalement maximiser
des travaux de rénovation qui énergétique. Nous rendent plus vertueux, finalement. Olivier, le mot de la fin là-dessus, puis après on partira en pub et on a plein d'autres choses à se dire après.
Oui, moi j'ai envie d'interpeller un petit peu justement Audrey pour savoir, en fait, on était à fond sur la rénovation globale en disant de toute façon, ça n'a d'intérêt que quand on parle de rénovation globale. Et on revient maintenant à la rénovation, on va dire simple, avec les monogestes. Qui sont les gagnants et qui sont les perdants ?
En fait, c'est important de ne pas opposer les deux démarches, parce que c'est des démarches qui ne sont pas du tout dans les mêmes temporalités pour les gens et qui ne sont pas dans la même intention. Vous allez faire une transaction, vous allez mettre en location un bien, c'est sûr que là, vous allez être plutôt dans une réflexion de faire des travaux de manière générale, vous allez faire des travaux sur votre bien, et donc la rénovation énergétique globale doit être embarquée dans ces travaux. Par contre, vous êtes dans une logique d'entretien de votre maison, changer votre chaudière lorsqu'elle est trop vieille ou qu'elle est cassée ou que vraiment vous avez des factures trop importantes, isoler votre maison pour des questions de confort ou même quand vous faites des ravalements de façade et que vous embarquez la rénovation énergétique. Donc vous n'allez pas être dans les mêmes démarches. Donc, moi, je n'opposerai pas, c'est vraiment deux actions différentes.
Ce n'est pas pour l'opposer, c'est ce qu'on entendait en disant pour être à la hauteur des enjeux de la transition écologique, il faut la rénovation globale. Ça ne sert à rien, le reste. Je comprends, vous, en tant que professionnel, puis c'est normal.
Et nous, on préconise les deux, mais on préconise les deux en fonction de l'intention du client et en fonction de ses moyens, en fonction de son enveloppe budgétaire. Et si vous faites des travaux par geste, mais vous les faites dans le bon ordre, donc d'abord, évidemment, l'isolation et ensuite les travaux de chauffage, vous êtes déjà dans une démarche où vous pouvez aller tout à fait vers la performante et vers l'évolution de classe énergétique.
Je rappelle ce que disait Nicolas Moulin de Prime Énergie qui nous disait récemment, Lorraine, je ne sais pas si tu te rappelles, c'est comme pour un régime en fait, le mieux c'est évidemment de manger moins et de faire du sport, mais si déjà tu peux faire l'un des deux, c'est pas mal.
Sinon, pour éviter les travaux, on peut acheter du neuf. C'est ce dont on parlera en deuxième partie, notamment, cher Audrey, cher Olivier, cher Marie. On marque une rapide pub et après on revient pour continuer à débattre de tous ces sujets.
Tout pour investir, les experts de l'IMO.
Les experts de l'IMO tous les vendredis pour répondre au sujet chaud et moins chaud, au dossier de long terme et les ceux de plus court terme qui concernent l'immobilier, le logement. Nous sommes en équipe avec Marie-Cœur de Roy. Il y a aussi Audrey Zermati avec nous, Défi, EFFY pour ceux qui nous écoutent en radio ou en podcast. Et puis Olivier Marin, notre confrère du Figaro, rédacteur en chef propriété. Rebonjour à tous. Bon, on va faire un petit point sur ce qui a changé ou pas changé ces dernières semaines, sur notamment MaPrimeRénov. On va parler monogestes, fin des monogestes et puis retour des monogestes. Marie.
Oui, on y voit toujours pas clair, hein, on va pas se mentir. Et puis du coup, c'était très bien parce qu'Olivier nous a lancé en fin de première partie sur de l'intérêt de faire ou non des monogestes, de la réno globale. Le fait est qu'on nous avait dit en début d'année, terminons les monogestes, maintenant on fait que de la rénovation globale. Constat d'échec, hein, on l'a vu, il y a de moins en moins de gens qui font des travaux. Ça va revenir, mais quand est-ce que vous avez matière à nous faire y voir un tout petit peu plus clair, Audrey, s'il vous plaît?
Alors, peut-être déjà un tout petit point sur ce qui change et ce qui change pas.
Voilà.
Ce qui change pas, les aides à la rénovation globale restent très conséquentes. Il faut être accompagné, donc tout ça, rien ne change sur la rénovation performante globale. Voilà. Sur les monogestes, donc sur les monogestes, vous vous souvenez, au 1er janvier 2024, en fait, les aides n'étaient plus disponibles que pour les travaux de chauffage et pour les travaux d'isolation quand on faisait un geste de chauffage.
Autre chose.
En même temps.
Ouais, c'est ça.
Donc c'est ça qui change. Là, on a réouvert à tous les travaux l'éligibilité à MaPrimeRénov.
En gros, si je fais d'isolation.
D'isolation simple. Du chauffage simple, donc chaque geste est éligible à MaPrimeRénov à partir des demandes de MaPrimeRénov au 15 mai 2024.
15 mai, donc je vais attendre là.
Et bien justement, non, il ne faut pas attendre. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, entre le moment où vous vous lancez dans un projet et le moment où vous faites une demande de MaPrimeRénov, il y a plein de choses à faire et donc il faut pouvoir anticiper. Donc vous allez faire des devis à des professionnels, vous allez faire finalement venir ces professionnels chez vous pour qu'ils établissent la possibilité de réaliser ces travaux. Vous allez faire des demandes en mairie. Tout ça, ça prend du temps et ça peut s'anticiper avant le 15 mai. Justement, n'attendez pas le 15 mai parce que sinon, vous allez risquer d'être dans finalement le goulet des tremblements.
Une espèce d'embouteillage, quoi.
Exactement. Ouais, ouais. Donc en fait, nous, on conseille vraiment à nos clients de démarrer maintenant leur processus et finalement de pouvoir être prêts à partir du 15 mai pour déposer leur demande qui sera donc éligible à tous les gestes de travaux. Donc vraiment, commencez dès maintenant et n'attendez surtout pas le 15 mai pour pouvoir débuter votre projet.
Et le niveau des aides sur les monogestes, est-ce qu'il, lui, il a changé par rapport à ce qu'on avait l'année dernière, par exemple ?
Alors, le niveau des gestes, il n'a pas changé, sauf, et c'était déjà le cas au 1er janvier 2024, pour le chauffage, pour la pompe à chaleur, puisque vous avez 1000 euros supplémentaires.
Là, c'est bien,
exactement,
c'est une très bonne nouvelle.
C'est une bonne nouvelle, et donc ça, c'est important de le rappeler. Lorsque vous faites un achat de pompe à chaleur, vous avez 1000 euros de plus pour MaPrimeRénov. Donc, c'est le moment d'y aller, ça c'est sûr. C'était déjà le moment d'y aller au 1er janvier 2024, mais dans les confusions, en fait, les gens ont plutôt attendu. Là, vraiment, il n'y a plus d'hésitation. Il faut lancer son projet dès maintenant et pour pouvoir avoir finalement la réalisation de ses travaux avant l'hiver prochain.
Et juste pour terminer là-dessus, au chapitre des confusions, mon accompagnateur Rénov, qu'est-ce qu'il est devenu ? Parce qu'à un moment donné, on nous disait qu'il fallait maintenant passer nécessairement par un accompagnateur Rénov pour toute la réno globale. Est-ce que c'est toujours le cas ? À partir de quand ? Comment ça se passe pour les monogestes ? Est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'éléments là-dessus ?
Alors, pour les monogestes, nous, on vous conseille d'être accompagné. Par contre, il n'est pas obligatoire d'être accompagné par un accompagnateur Rénov. Pour la rénovation globale, pour pouvoir avoir accès à MaPrimeRénov rénovation globale, qui encore une fois est très importante, peut aller à 90% du montant des travaux.
Wow.
Là, il faut être accompagné par un accompagnateur Rénov, quel que soit votre profil de revenu. Vous devez être accompagné par un accompagnateur Rénov qui va vous aider à, qui va réaliser un audit, qui va vous faire des conseils de travaux, qui va vous évaluer les aides disponibles, qui va aller mobiliser les aides, trouver vous conseiller sur les artisans disponibles et éligibles pour réaliser ces travaux. Donc c'est important d'être accompagné. Ça peut, aujourd'hui en fait il y a déjà 3000 artisans, il y a 3000 accompagnateurs.
J'allais
Rénov.
Vous demander s'il y avait suffisamment d'accompagnateurs.
Il y a 3000 accompagnateurs Rénov, ils en visent 4000 pour la fin de l'année et 5000 à partir de l'année prochaine. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de problème pour trouver un accompagnateur Rénov.
Ça, c'est vrai ? Ces 3000, ils maillent l'ensemble du territoire ?
Ces 3000 maillent l'ensemble du territoire. Il est même possible de faire appel à un accompagnateur Rénov qui n'est référencé que sur un territoire, mais qui peut agir sur d'autres territoires. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur le site France Rénov de trouver ces accompagnateurs Rénov pour pouvoir être accompagné.
Ça vous fait rire, Olivier Marin ?
Non, parce que je pensais aux tiny house qui vont justement faire le tour
il
de France.
Il lâche pas l'affaire avec une petite maison.
C'est sympathique. Donc ils vont partir de Chartres. ils seront à la foire de Paris et ils vont aller de ville en ville comme ça pour expliquer justement avec
les conseillers. Mais c'est qui ils? Donnez-nous un peu de contexte.
Ces petits accompagnateurs Rénov.
Les conseillers de France Rénov justement, qui est l'ANA, l'Agence nationale pour l'habitat en fait, qui dépend aussi du gouvernement et donc qui va aller de ville en ville comme ça, de façon itinérante pour expliquer en fait concrètement, parce que vous l'avez très bien expliqué Audrey, mais beaucoup ne comprennent pas grand-chose. Et puis notamment il y a le label garant de l'environnement qui va aussi évoluer, donc maintenant il va être distribué de façon un petit peu différente.
Il y a besoin de beaucoup de pédagogie.
Oui, ouais. Plus que jamais, il y a besoin de beaucoup de pédagogie.
Et Olivier fera partie des petites tiny house.
Ouais, je pense.
Alors, il faut savoir pour ceux qui nous écoutent à la radio en podcast qu'Olivier n'a pas exactement le physique à vivre dans une tiny house, non, parce que vous êtes assez grand. Même si je sens que les tiny house sont très fonctionnels. Bon, du coup, on achète une tiny house. Non, on s'évite des travaux, on n'achète pas une tiny house. Peut-être qu'on achète directement du neuf.
Encore faut-il le trouver. Parce que la construction neuve, on a les chiffres, c'est catastrophique. C'est vrai qu'on l'a souvent évoqué, notamment ici dans cette émission. Les ventes aux particuliers ont chuté de plus de 40% sur le logement neuf dans le collectif. Les mises en vente de nouveaux logements en recul de 32%, on est à 70 000 à peu près. Avec les menaces sur l'emploi, on a un modèle qui est littéralement en train d'exploser. C'est vrai que on le voit, les promoteurs immobiliers, les aménageurs ne peuvent plus attendre des opérations qui mettent, avant, qui mettaient deux ans et demi, maintenant avec les recours, 3 ans, plus l'opposition, des fois les populations, les restrictions des maires, qui mettent 4 à 5 ans. Donc, on a des modèles, en fait, de construction qui sont en train de complètement exploser. Et je pense que l'avenir du neuf, c'est l'ancien. C'est l'ancien rénové, c'est l'ancien réhabilité.
L'avenir du neuf, c'est Audrey, quoi.
C'est l'ancien transformé, mais c'est l'ancien complètement réinventé. Justement, on doit réinventer tout ceci. On a beaucoup de gaspillage de millions de mètres carrés qui sont comme ça gaspillés.
Mais Olivier, on peut faire du neuf quand
il faut,
quand vous
il
dites,
faut les deux.
On peut faire du neuf avec de l'ancien aussi.
Mais c'est exactement, c'est
oui,
ça.
Oui, c'est pas que de la rénovation. Parce que parfois, c'est vrai que quand on parle rénovation, on pense à Audrey tout de suite.
C'est justement de l'ancien réhabilité pour en faire du neuf, profiter justement pour mettre aux normes, pour la performance énergétique. C'est très très important. Et d'ailleurs, les promoteurs immobiliers, ils sont bien conscients de ça. Ouais. Il se passe quelque chose. Regardez les filiales qui sont en train de se monter. Notamment Nexity a monté Nexity Héritage sur justement la réhabilitation, la rénovation pour avoir des bâtiments désaffectés, en faire des logements. Ça, c'est Nexity Héritage. Bouygues Immobilier a sorti une filiale aussi qui s'appelle Coverso. Coverso, ils sont justement axés sur ces transformations, ces réhabilitations, réinventer en fait d'anciens lieux de vie complètement désaffectés pour en faire des logements, des bureaux, des activités.
Parce qu'ils n'ont pas le choix, Olivier.
Ils n'ont pas le choix. On a besoin de sobriété, sobriété environnementale pour construire, mais peut-être aussi dans les, je ne vais pas dire dans les effectifs, mais on voit ce qui se passe au niveau des promoteurs immobiliers. C'est vraiment un changement total. Et dans l'approche, et dans le modèle économique, et la façon dont on aborde, et les professionnels de l'immobilier, en tout cas dans le neuf, abordent ça, c'est... Il y a aussi la nouvelle génération qui pousse, les envies sont différentes, et on ne peut pas construire comme on le faisait il y a 5-6 ans, c'est plus possible. Puisqu'on voit, en fait toutes les résistances, donc on construit de plus en plus en tenant compte de l'environnement, en construisant hors site aussi, c'est-à-dire en fabriquant dans les ateliers pour amener directement...
Le Lego. Enfin, si on construisait vraiment en respectant l'environnement, on ne construirait plus.
Alors, c'est compliqué. Non, mais c'est une vraie question. Est-ce qu'il faut pour autant arrêter complètement la construction neuve? On va dire non, mais c'est compliqué. Donc, il faut inventer des nouveaux modèles.
Juste quand même, je vais faire preuve de cynisme parce que ça fait du bien de temps en temps. Bien sûr qu'on regrette les difficultés que traversent les promoteurs, mais on se réjouit du fait qu'ils se réadaptent aussi. Il y a quand même de telles difficultés aujourd'hui qu'ils ont beaucoup de mal à écouler les stocks. Je continue de le dire, je m'adresse à un collègue d'ailleurs qui cherche désespérément à acheter. Vous avez des prix défiant toute concurrence en ce moment de la part de tous les promoteurs parce qu'ils cherchent désespérément à écouler leur stock. Ils vous offrent 5 000, 10 000, 20 000, 25 000 euros par pièce. Ils vous offrent les frais de notaire. Ils participent au remboursement de vos mensualités de crédit. Certains compensent même la perte des avantages liés au Pinel. Oui, effectivement, pour les promoteurs, c'est symptomatique d'une grave crise qu'ils sont en train de traverser. Mais quand même, je m'adresse à nos auditeurs et téléspectateurs qui cherchent à acheter. Il y a des opportunités de prix très décotés dans le neuf en ce moment. Je vous conseille d'aller voir tous les promoteurs. On parlait de Bouygues, il y a Eiffage, il y a Nexity, il y a Icade, il y a Kaufmann.
Bien sûr.
Enfin,
voilà. Allez voir sur les sites internet. Franchement, moi, je me souviens avoir eu un contact au téléphone il y a quelques semaines qui me disait c'est la foire fouille. Alors, désolé, ça fait un peu vieillot, mais c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Donc, que ce soit pour habiter ou pour faire un investissement locatif, malgré la disparition annoncée du Pinel, je vous conseille d'aller voir. Ce seront des logements qui seront très vertueux aussi. On n'arrête pas de le dire.
Justement, aux dernières normes des performances énergétiques, justement, qui sont au top niveau. Et vous parliez du Pinel, chère Marie, on peut encore investir en Pinel jusqu'à la fin de l'année. Et je suis persuadé qu'il y aura un dispositif d'investissement locatif qui prendra la
suite.
Le
fameux statut du bailleur.
Statut du bailleur, sur la rénovation énergétique, la réhabilitation, plus le neuf, en fait les deux, on va vers quelque chose de vertueux. Il faut inciter plutôt que contraindre.
On le précise quand même, ces bâtiments neufs qui sont en solde ou pas, qui n'ont pas vraiment tous un DPE A. Ça n'est pas le
non.
A.
Non, hein, c'est vrai. Ils n'ont pas tous le dire. C'est vrai. Mais il n'y en a aucun qui sera G ni F. Voilà. Hein, et sans doute pas D. On est plutôt sur ABC, hein, globalement. Hein, bon. Mais ils ne sont pas tous ça, c'est vrai.
On continue à parler d'usage parce qu'on vit dans nos maisons, on consomme de l'électricité, peut-être avec plus de parcimonie, ou en tout cas on fait des économies. Mais on consomme de plus en plus parce qu'on est tous plus connectés et d'être connectés, ordinateur, portable, montre, loupiote. Moi, par exemple, les loupiotes de mes enfants sont aussi surprises. Ben, tout ça, ça consomme de l'électricité et donc ça veut dire quelque chose pour nous. Dans nos usages.
En fait, c'est ça, c'est qu'à la fois on est plus sobre dans sa consommation existante, mais on a des nouveaux usages. Alors, dans les nouveaux usages, ne serait-ce que pour votre chauffage, en fait, on va vous dire finalement il faut abandonner le fossile, il faut abandonner le fuel, le gaz, et ça c'est au profit alors du bois. Un petit peu, mais surtout de l'électricité et de la pompe à chaleur.
Ça tombe très bien en ce moment, vu les tarifs.
Voilà. Vous allez avoir aussi de plus en plus chaud, vous allez avoir des crises de canicule, et donc dans ce cas-là, vous allez, quoi, dans le sud notamment, eh ben, vous équiper avec des climatisations. Ben, les climatisations, c'est aussi de la consommation d'électricité. Véhicule électrique, vous allez passer du véhicule thermique au véhicule électrique, et donc là aussi, ça fait des usages supplémentaires. Et donc, c'est important d'avoir en tête que on va être plus sobre, mais on va consommer finalement avec des nouveaux usages, plus d'électricité. Et c'est pour ça qu'au-delà d'avoir une réflexion sur la performance, en tout cas de l'isolation ou du chauffage, il y a aussi une réflexion très forte et qu'on a vu, nous, augmenter de manière considérable ces dernières années sur la manière de produire
la production de l'électricité.
Exactement. Et donc, produire sa consommation, c'est la possibilité de produire sur son toit avec des panneaux photovoltaïques. Et ça, on a vu un engouement, on a une augmentation de quasiment 100% de nos demandes sur le photovoltaïque.
Mais Audrey, on peut en mettre partout des panneaux photovoltaïques, parce qu'à chaque fois qu'on aborde le sujet, on imagine que c'est beaucoup plus simple pour le propriétaire d'une maison. Comment je fais, moi, parisienne, locataire dans un appartement ou même propriétaire d'un appartement?
Le panneau photovoltaïque va remplacer, vous savez, les antennes câbles.
Alors, râteau.
Aujourd'hui, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple dans le résidentiel d'en mettre dans les maisons individuelles et on n'a pas encore complètement trouvé la martingale sur le collectif. En revanche, vous avez sur notamment les sites tertiaires, les supermarchés, vous avez c'est couvert de panneaux photovoltaïques.
Bien sûr, mais on pourrait l'imaginer à l'échelle des copros, justement.
On pourrait l'imaginer à l'échelle des copros, mais comme il y a plusieurs finalement compteurs et consommateurs, c'est plus compliqué pour diviser la facture, mais on y viendra, c'est évident, puisque réellement, la révolution du photovoltaïque, elle est en marche. Il y a une baisse très très forte. Enfin, on a des baisses de 40-50% du prix des panneaux solaires. Et donc, on a aujourd'hui à la fois la baisse du prix des panneaux solaires, la hausse, comme je disais tout à l'heure, de 45% des prix de l'électricité, de la facture d'électricité. Donc, les Français l'ont bien compris. Pour pouvoir s'assurer un prix finalement garanti pendant 20 ans, 25 ans sur leur consommation, eh ben, ils passent à l'énergie solaire. Et aujourd'hui, on est sur des prix très compétitifs sur les panneaux, entre 7 000 et 15 000 euros en fonction de la puissance des panneaux sur votre toit, et vous pouvez couvrir jusqu'à 30 à 40% de votre consommation.
Certains même peuvent même en revendre à EDF, hein, c'est ça l'idée.
Exactement, donc en fait vous avez votre consommation et vous couvrez votre consommation, et si vous avez du surplus de production, vous pouvez revendre le surplus à EDF.
Je reprends le chiffre que vous venez d'énoncer, enfin les chiffres, on peut couvrir 30 à 40% de sa consommation.
De sa consommation d'électricité, et vous allez notamment, si vous décalez votre consommation, si vous lancez finalement vos usages à des moments où vous êtes en plein soleil à midi, entre midi et 15h en plein soleil, et ben vous allez encore maximiser cette couverture et donc finalement économiser sur votre
facture. Mais juste d'un mot quand même, Audrey, ma prime Rénov' pour mes panneaux solaires, c'est pas du tout, c'est niette. Hein.
Alors ça, c'est effectivement un sujet, c'est qu'aujourd'hui non seulement ma prime Rénov' n'est pas éligible pour les panneaux solaires, il n'y a pas de crédit d'éco-PTZ comme il y a sur les autres d'autres travaux de rénovation énergétique. On a même une TVA qui n'est pas à 5,5 comme les travaux de rénovation énergétique, qui est à 10% pour les petites surfaces de panneaux et à 20% pour les grosses surfaces. Donc on a encore un effort à faire pour pouvoir mieux inciter les Français à passer...
Un effort ou de l'éducation financière, de dire que finalement c'est peut-être un autofinancement où on se retrouve, puisque 30 à 40% d'économie derrière, bah, peut-être que si on peut se l'autofinancer, le calcul, il est vite fait, si je puis dire. Olivier, le mot de la fin.
Investissez dans le co-living. Je m'adresse à la fois pour les utilisateurs, pour les investisseurs. Vraiment, c'est un secteur qui marche très fort. Autant les locations classiques régressent, autant le co-living, il y avait en 2019 5000 offres de co-living. On est maintenant à 15 000 multipliés par 3. Pour les utilisateurs, on rappelle par la différence par rapport à la colocation, c'est qu'en fait, en co-living, vous avez votre espace préservé de chambres, de salles de bain, mais vous partagez des services. Des services, vous pouvez travailler, vous pouvez bénéficier de différents services, des choses à partager. C'est un mode d'hébergement qui attire de plus en plus, bien sûr, d'étudiants, de jeunes actifs, mais aussi des entreprises qui cherchent à loger leurs salariés. Co-living qui propose des services, des avantages clés en main. Généralement, on partage une résidence ou une grande maison à peu près à 8 ou 12 personnes, des résidences gérées. Donc, chacune est meublée, équipée pour partager des espaces, donc travailler. Chaque locataire a un bail individuel. Il y a aussi différence avec la colocation. Le prix mensuel comprend toutes les charges. Et donc, investir dans des nouveaux modèles, c'est avoir l'assurance de loyer régulier, taux d'occupation élevé, absence de vacances locatives, de plus en plus d'investisseurs s'y intéresse. Et puis le co-living, on va avoir des modèles co-living senior, multifamily. Il y a beaucoup de choses qui se développent et vraiment transformer là aussi d'anciens bâtiments. Quand on pense qu'une grande maison de 600 mètres carrés a abrité en fait deux personnes pendant des années et des années, qu'après elle est restée désaffectée et qu'on l'a réhabilitée, qu'on en fait maintenant 14 chambres en co-living.
Et qu'on peut mettre des panneaux solaires.
Non, mais ça fait réfléchir aussi sur l'intensité d'usage et de ne pas gaspiller des mètres carrés.
Autre illustration de comment on fait du neuf avec du vieux. Pour boucler la boucle sur nos sujets. Merci à tous les trois. Merci Marie Cœur de Roy pour la coordination de cette séquence. Merci Audrey Zermati, directrice stratégie défi. Merci Olivier Marin de l'équipe du Figaro pour ce tour d'horizon des sujets immobiliers, transition énergétique. Tout pour investir, ça n'est pas fini. Il est l'heure de parler crypto pour finir la semaine. Amaury de Tonquédec arrive. Restez connectés.
Tout pour investir. Investir autrement.
C'est l'heure de parler crypto, de faire le point sur l'univers Bitcoin. Et au-delà, avec vous, Amaury de Tonquédec, bonjour.
Bonjour Lorraine, bonjour à tous.
Amaury, qu'on retrouve tous les jours à 15h, à 21h30, et puis également à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, en podcast et en replay, aux manettes de BFM Crypto, le club. Bon, la semaine, pas particulièrement dense en actu crypto. Je voulais revenir sur un chiffre quand même, c'est 9000 milliards de dollars. C'est le volume des échanges en crypto qui atteint ce sommet historique. On a pas mal de questions d'auditeurs, j'ai notamment celle d'Alexandre qui nous suit régulièrement et qui nous demandait une question un éclairage plutôt sur le lien entre le Bitcoin et la valeur du Bitcoin. Je vous le lis. Comment les ETF pourraient influencer le marché du Bitcoin? Est-ce que ça fonctionne comme ça? Plus il y a d'achats de Bitcoin, plus il perd de la valeur.
Alors, en fait, Alexandre, pour lui répondre, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que, justement, plus on achète un actif, plus il prend de la valeur, d'autant plus qu'on a le halving. Hein, donc, on l'a déjà expliqué ici ce que c'est-à-dire les récompenses accordées aux mineurs qui sont divisées par deux. Ça arrive en moyenne tous les 4 ans, tous les 210 000 blocs. Et là, ça va arriver maintenant dans moins de 20 jours. Donc, on s'en rapproche, ce qui va rarifier encore plus le Bitcoin. Donc, le halving... Plus il y a des gens qui achètent du Bitcoin via ces ETF-là, normalement, le cours du Bitcoin devrait s'apprécier parce qu'il est de plus en plus rare. Et avec les ETF Bitcoin Spot qui ont été acceptés aux États-Unis début janvier, quand on achète un Bitcoin via ces ETF, un Bitcoin physique, entre guillemets, doit être détenu par la société qui propose cette ETF. Donc, ça bloque, entre guillemets, des Bitcoins dans des portefeuilles et donc ça le rarifie sur le marché.
Voilà ce qu'on pouvait apporter comme éclairage à Alexandre. Je disais, le volume des échanges de crypto qui atteint un sommet cette semaine, 9000 milliards de dollars. Qu'est-ce que ça dit? Les gens qui avaient déjà du Bitcoin en ont de plus en plus. il y a vraiment une démocratisation des bitcoins via cette ETF, ces ETF, on rappelle, lancés mi-janvier par plusieurs opérateurs. Quel est votre regard, Amaury, là-dessus?
Voilà, on a eu une hausse spectaculaire du bitcoin là, ces derniers mois. Ça a beaucoup augmenté. Ces ETF sont un succès. Hein. C'est a priori les ETF qui ont eu le plus grand succès en un temps aussi court. Là, ce qui se passe depuis un mois, on est en train de latéraliser un petit peu. Le 14 mars dernier, on a eu un record du bitcoin absolu à 73 000 dollars. C'est la première fois dans tous les cycles qu'on a un record historique du bitcoin qui est battu avant ce fameux halving. Donc, c'est notamment beaucoup dû à la pression acheteuse via ces ETF-là. Maintenant, on regarde deux choses. C'est le pivot des taux de la Fed, c'est-à-dire il y a un peu d'incertitude sur quand la Fed va baisser ses taux.
Si elle les baisse.
Voilà, si elle les baisse. Donc c'est cette incertitude-là qui fait que ça se calme un petit peu sur le marché. Et puis le fameux halving, à savoir que à chaque fois, le marché s'est beaucoup apprécié en moyenne entre 80 et 100 jours après le halving. Ce qui nous amènerait là au mois de juin pour une reprise haussière.
Le halving, on le rappelle, 26 avril
C'était le 19, je crois, mais après, la date n'est jamais très stable parce qu'en fait, c'est tous les 210 000 blocs et donc ça va dépendre du hash rate, donc le taux de la difficulté du minage du bitcoin. Donc tous les 210 000 blocs, là, c'est dans un peu moins de 20 jours à peu près.
D'accord. Bon, on donnera la date exacte quand on arrivera, évidemment, plus près de ce nombre de blocs visés. Une autre question, on est très serviciale avec vous aujourd'hui. On a une question de Franck qui m'a écrit pendant le direct qui nous dit investir dans les crypto, ok, mais surtout à l'heure des déclarations d'impôts, il faudrait rappeler aux détenteurs qu'il faut déclarer son compte en général, souvent détenu à l'étranger, et déclarer ses gains, si gains. C'est bien de le rappeler.
Bah oui, c'est important de le rappeler parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez un compte crypto, si c'est une entreprise française, a priori vous n'avez pas besoin de le déclarer. Par contre, si c'est une entreprise étrangère, il faut le déclarer à l'administration fiscale. Voilà, c'est assez rapide à faire. On fera une émission spéciale là-dessus, Lorraine, si vous voulez, pour en bien rappeler toutes les dates et les procédures à suivre. Mais il faut le déclarer ses comptes à l'étranger. Et puis évidemment, si vous avez la chance de faire des gains en crypto, ce qui s'applique, c'est la flat tax. Donc ça veut dire que si vous gagnez 100 euros, vous devrez déclarer ces 100 euros de plus-value et il y aura 30 euros qu'il faudra donner à l'administration, flat tax, donc 30% taxé sur les gains, comme la bourse.
Bon. Et puis quand il y aura un ETF accessible depuis la France, on parlera de la taxation de cet ETF s'il arrive un jour chez nous. Amaury, on vous retrouve tous les jours, je vous rappelle que les chroniques BFM Crypto Le Club sont disponibles sur notre plateforme BFM Business. On vous retrouve la semaine prochaine. On va travailler effectivement sur une émission spéciale fiscalité et crypto. On va faire ça évidemment à l'occasion des déclarations d'impôts qui arrivent très vite. Nous ferons ça dans Tout pour investir de manière très servicielle. L'émission, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à toute l'équipe pour la préparation. Merci à vous pour vos questions. Vous pouvez continuer à nous écrire pendant le week-end, notamment sur LinkedIn si vous le voulez, en message privé. Si vous avez attrapé l'émission en cours de route, pas de panique, elle est déjà disponible ou presque sur l'application BFM Business. Lundi, nous serons au rendez-vous dès 10h. On parlera justement fiscalité. Les temps forts des déclarations fiscales à venir, on invite un fiscaliste pour que votre agenda soit bien clairement marqué. Des jours et des deadlines à respecter. Et puis on réfléchira à comment investir dans les œuvres d'urban art. On parlera art moderne, art de rue dans notre séquence investissement thématique. La suite du programme sur BFM Business, il est 11h54. Dans quelques minutes, Annalisa Capellini prend les manettes d'avec vous. Bonjour Annalisa.
Bien sûr.
Avec Erwan Maurice, de midi à 13h, vous répondez aux questions des entrepreneurs, des gens qui nous suivent pendant le direct. Quel est le programme du jour ?
Aujourd'hui, on va parler transparence, Lorraine, notamment transparence des entreprises, surtout en ce qui concerne évidemment les salaires. Pour combler cet écart de salaire entre les hommes et les femmes qui est encore trop important, on parle de 13% à peu près d'écart au niveau de l'Union européenne. Donc, on a demandé à nos auditeurs, téléspectateurs, de donner leurs témoignages, leurs avis, de savoir, voilà, est-ce que à leur avis, les entreprises jouent la transparence, jouent suffisamment ce jeu-là. Vous pouvez répondre vous aussi sur tous nos réseaux et à l'adresse mail avec vous@bfmbusiness.fr. faire et on vous donne la réponse à 13h.
Voilà, est-ce un jeu quand on y pense finalement? C'est très sérieux ce sujet de la transparence. Il évolue au fil des années dans nos entreprises et aussi dans nos têtes, à nous, d'acteurs du monde corporate. Merci à tous pour votre écoute. Vous restez branchés. On se quitte avec le cours du Bitcoin qui se négocie autour de 66 743 dollars et tient celui de l'Ether tant qu'on y est, qui se traite autour de 3 275 dollars. Très bon week-end et bonne écoute sur BFM Business.
Tout pour investir sur BFM Business.